21h passée de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et merci de monter à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Troisième et dernière partie ce soir du compte-rendu de la 21e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 7 et 8 avril dernier. Un événement important en Bourgogne dont votre émission littéraire est partenaire depuis plusieurs années. Une manifestation qui d'ailleurs, le temps d'un week-end, devient la plus grande librairie éphémère de Bourgogne, réunissant une centaine d'auteurs, d'illustrateurs et d'éditeurs. Le prochain grand événement culturel et littéraire en Bourgogne, ce sera Livre en Vigne, qui se tiendra au château du Clos de Vougeot lors du dernier week-end de septembre. Mais ce soir, intéressons-nous à la fête du livre d'Autun. Au sommaire de ce 342e numéro de Wagon Livre, des rencontres et des reportages, bien sûr, notamment avec une éditrice, Marie-Thérèse Mutin, des éditions Mutine, qui nous présentera quelques récentes publications de sa maison d'édition associative installée en Côte d'Or. Nous avons tendu notre micro à trois auteurs des éditions de l'Armançon, Claudine Vincenot, Loïc Le Goff et Georges Maglica. Enfin, nous avons demandé à Philippe Ménager, historien, auteur des plus belles fontaines de France aux éditions Christine Bonneton, de revenir pour nous sur quelques-unes des fontaines de Lyon, notamment celle qui se situe à Auxerre, place Saint-Nicolas, celle que l'on rencontre à Mailly-le-Château, c'est la fontaine du Loup qui pleure, et enfin la fontaine pyramidale que l'on peut admirer dans les jardins du château d'Ancy-le-Franc dans le Tonnerrois. Si vous le voulez bien, nous ouvrons cette émission en chanson avec Gérald de Palmas, Rose pleure.
Que c'est mal parti cette histoire, étranglé par les sanglots, sur un banc sans maquillage et sans phare, elle s'est fait larguer dans le métro. Circuler, y a vraiment, vraiment rien à voir. Et même si le monde vient de s'écrouler, on n'en parlera pas dans les journaux du soir. Il n'y a qu'elle qui le sait. Il n'y a qu'elle qui le sait. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne le regard. Je vais prendre mon courage à deux mains, aller m'asseoir à côté d'elle. Peut-être que ça ne servira à rien. Peut-être que je vais me prendre un coup de pelle. C'est étrange comme je me sens bien plus proche des gens qui pleurent au grand jour. Les autres attendent les mains dans les poches. Le prochain train, le prochain tour. Prochain train, le prochain tour. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne le regard. Pas permis ou c'est mal vu. On n'aborde pas les inconnus. Il faudrait pourtant faire quelque chose. Tout le monde s'en fout ou personne n'ose. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure. Encore, j'ai oublié.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Lors de la 21e fête du livre d'Autun, nous avons rencontré trois auteurs d'une maison d'édition incontournable en Bourgogne. Je veux parler des éditions de l'Armançon. Et nous commençons avec Claudine Vincenot, auteure d'un dernier roman aux éditions de l'Armançon, bien évidemment. Roman qui a pour titre « Ô mon beau Titus », avec comme sous-titre « Tribulations et autres cocasseries en terre des hommes ». Claudine Vincenot.
D'abord, j'avais besoin d'écrire des choses cocasses. Et je me suis dit, étant donné mon grand âge, si je ne me lâche pas maintenant, c'est fichu. Je ne me lâcherai plus jamais. Donc, c'est l'histoire. Je commence par une naissance, c'est l'accouchement d'une dame dans un manoir un peu en ruine des Monts d'Aussois, les monts de la vallée de l'Auge, oui, d'Aussois. Et ce petit garçon, elle va l'appeler Titus, parce qu'elle a une grand-mère qui s'appelait Bérénice, en fait, etc.
Référence, bien sûr, à la tragédie de
Titus et Bérénice, voilà. Et il se trouve que ce petit garçon naît dans un foyer d'un couple de petite noblesse fauchée et très 68 art, peace and love, hippie. Et ils élèvent des gens très cultivés, ils élèvent cet enfant au manoir, ils font l'école au manoir. Et le papa promène son fils dans la campagne avec le fils de la ferme voisine. Et la première partie est donc consacrée à l'environnement rural et villageois du manoir, où il apprend une certaine façon de vivre. Et puis ses parents meurent, il a 18 ans, il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme, comme chante Dalida. Et il va s'embarquer pour faire à la recherche de ses grands-parents, de sa grand-mère Ashkenaz, de Vienne ou de Budapest, il va à leur recherche. Et puis finalement, il va faire un grand tour, le Danube, la mer Noire, la Grèce, Corfou, l'île de Corfou, la Sicile, et il revient au manoir. Mais tout au long de ce grand périple, il va rencontrer l'amour à plusieurs stades de son évolution juvénile, et puis il va rencontrer aussi de vieux sages, dont un rabbin à Vienne, un rabbin à Budapest. Et il ne va pas retrouver les traces de ses ancêtres, mais c'est une grande odyssée initiatique. Pardon.
Merci Claudine. Donc je rappelle le titre de votre roman disponible aux éditions de l'Armançon, « Ô mon beau Titus, tribulations et autres cocasseries en terre des hommes ». On l'avait reçu il y a, je pense, plus d'un an et demi à bord de Wagon Livre sur Radion. C'était pour un polar qui se situait dans le Morvan, avec bien sûr le passé, l'histoire avait laissé une trace. C'était votre roman Rouge
Campagne.
Loïc Le Goff, bonjour.
Bonjour
et
Yannick.
Vous nous revenez toujours aux éditions de l'Armançon avec un nouveau roman. Alors, vous aimez la couleur, hein ? Cette fois-ci, c'est Noir Mémoire.
C'est le côté stendhalien, sans doute.
Ah oui, effectivement. Voilà. Rouge Campagne, Noir Mémoire. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il dans ce nouveau roman ?
Alors, comme le premier, c'est à la fois un faux polar et un vrai roman.
C'est un prétexte.
Un prétexte pour, à travers quelques crimes qui ont pu se produire dans l'Hivernais, l'occasion de parler des gens et de décrire quelques paysages.
Toujours voilà. Comme c'était d'ailleurs la même ligne de réflexion dans, voilà, dans Rouge Campagne.
C'était cela dans Rouge Campagne. C'est pas une copie conforme, bien sûr. Il y a une autre histoire, il y a une autre intrigue, il y a une autre ligne directrice. Mais on continue quand même à évoluer autour de personnages et autour de paysages dans l'Hivernais.
Alors, Loïc Le Goff, un petit peu plus d'informations sur l'intrigue, alors. Auditrices et auditeurs, qui se fassent une idée de ce roman Noir Mémoire.
L'intrigue commence dans deux églises où des œuvres d'art ont disparu. Et dans l'une, dans la crypte d'une de ces églises, on retrouve le corps d'un prêtre qui a été assassiné durant la nuit. Et à partir de là, donc, va se développer une intrigue autour des milieux de la récupération, des brocanteurs, mais aussi autour de bouquinistes qui sont installés là-bas et de collectionneurs. Donc, l'intrigue part à la fois dans un milieu de collectionneurs et dans un milieu de brocanteurs.
Et en Nivernais.
Et on est dans l'Hivernais, bien sûr. Et
effectivement, sur la couverture du roman, il y a photographie de la crypte de Saint-Paryse.
Saint-Paryse de Châtel, à côté de Magnicourt.
Parfait, merci.
C'est un peu la genèse de ce livre, c'est en découvrant cette crypte que l'intrigue du roman m'est venue.
Merci Loïc Le Goff.
Merci.
Noire mémoire, le titre de votre dernier roman aux éditions de l'Armançon. Georges Maglica, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites paraître un roman aux éditions de l'Armançon, L'odeur du seringat.
Tout à fait.
De quoi s'agit-il ? Est-ce que je peux peut-être vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Eh bien, écoutez, je suis Georges Maglica, donc je suis bourguignon depuis toujours. Je suis né en Côte d'Or. J'ai mené une carrière de proviseur qui m'a valu de me déplacer dans les 4 départements. J'ai fini ma carrière au rectorat de Dijon et parallèlement, je suis élu à la ville de Dijon. Je suis adjoint aux finances et j'ai toujours, depuis l'enfance, j'ai toujours lu et écrit. Et je m'étais promis de publier mes manuscrits à ma retraite, mais la retraite ne venant pas, je me suis décidé avant de partir, disons. Voilà.
Alors
Michel Huvet, qui a lu une maquette, m'a dit « Georges, vous ne pouvez pas garder ça pour vous ». C'est un petit chef-d'œuvre, il faut absolument le publier. Donc je lui ai dit, Michel, vous en occupez, je ne m'en occupe pas. Et voilà comment ça s'est passé.
Et donc vous ramenez vos lectrices et lecteurs l'hiver 52 dans un petit village isolé de l'Aussois. Alors de quoi s'agit-il dans ce roman intitulé, je le répète, L'odeur du seringat ?
Alors tout part d'une scène de l'hiver 52 et qui débouche à la fois sur une intrigue amoureuse, sur une intrigue policière et qui raconte en quelque sorte le parcours d'un petit garçon né de l'immigration dont les parents baragouinent le français, qui le destine à garder les vaches et qui finit contre tout pronostic par entrer en 7e à 12h30 et rapidement repasse en 6e au bout de 2 mois et finit par faire des études supérieures. Voilà. Donc c'est le récit d'une ascension sociale, c'est un roman d'amour, c'est un roman policier avec une mise en abîme des 3 genres. Et au total, un journaliste d'ailleurs a écrit ça merveilleusement en disant que c'est un roman gris, c'est un roman entre chien et loup parce que la vie est parfois cruelle, parce que parfois la vie n'est pas toujours drôle. Il y a tout de même des chapitres très drôles. Et voilà, donc c'est un roman très, très personnel et très sincère.
À l'instant, c'était Georges Maglica à notre micro pour L'odeur du seringat, un roman disponible aux éditions de l'Armançon. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de noter les titres ou les références des ouvrages dont il a été question dans nos reportages, vous les retrouvez dès à présent sur le site d'archives via internet www.yannickpetit.fr. Très bonne soirée sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Tout de suite, Caroline Costa, Ailleurs.
New York, Barcelone ou Tokyo, les mêmes gratte-ciel qui me regardent haut. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves, la même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles, où que j'aille mes peurs me tiennent en laisse. Seul dans ma chambre j'ai perdu le sommeil, et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs, je suis une enfant d'ailleurs. par mes souvenirs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Puisqu'ici mes peurs me tiennent en laisse, je pars, je pars.
Je m'en vais.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Poursuivons le compte-rendu de la 21e fête du livre d'Autun avec une figure bien connue dans le monde de l'édition bourguignonne. Il s'agit en effet de Marie-Thérèse Mutin qui dirige les éditions Mutine et qui décline à notre micro quelques-unes des dernières publications de sa maison d'édition. Notamment 1, 2, 3, Soleil, titre d'un recueil de nouvelles de Robert Coulomb. Marie-Thérèse Mutin.
1, 2, 3, Soleil, oui, sont des nouvelles qui sont... moins noir que celle qu'il avait dans Trace, puisqu'il a fait déjà un recueil Trace. Et là, ce sont des nouvelles qui sont, et avec une écriture assez originale, parce que Robert est un auteur de théâtre, et donc il a un style qui rappelle le style parlé, et ça fait des nouvelles qui coulent très bien, quoi, qui sont très faciles à lire et qui sont extrêmement intéressantes.
Alors, rappelons que les éditions Mutine ont un fonctionnement particulier.
Ah oui, les
éditions
Mutine
tout de même.
Sont une
Elles
association.
Sont installées déjà en Côte d'Or, créées par vous-même il y a plus de 20 ans.
Dans mon village natal.
De Cessé-sur-Tille,
voilà,
dont vous fûtes
ça,
maire.
Oui. Voilà.
M-A-I-R-E.
Oui. Et oui, donc, c'est une association de loi 1901 où les adhérents qui payent leur cotisation annuelle reçoivent les livres que je publie dans l'année.
Quel est le montant de la cotisation ?
Le montant est de 45 euros. Et avec ces 45 euros, ils reçoivent, dans le courant de l'année, à peu près 3 à 4 livres ou 5, des fois, dans les bonnes années, par an. Quoi. Juste... Depuis leur date d'adhésion jusqu'à leur date de réadhésion, et s'ils réadhèrent, ils reçoivent les suivants. Donc j'ai des adhérents qui ont tous les livres sortis aux éditions Mutine parce qu'ils sont adhérents depuis 23 ans.
Alors vous avez eu un adhérent célèbre qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de la politique,
oui,
qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, oui, bien sûr, du temps où il était socialiste, qu'il refuse maintenant absolument comme si c'était une insulte. Oui, quand Jean-Luc était... au Parti Socialiste avec moi, il avait adhéré à un moment donné avec Marie-Noëlle Lindemann, si ça vous dit quelque chose, voilà. Et donc, j'ai eu quelques adhérents comme ça, assez célèbres, oui.
Alors, Marie-Thérèse, je rappelle que pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre les éditions Mutine, vous avez un blog, hein, à partir
blog,
d'un moteur de recherche,
voilà,
éditions Mutine, et on vous trouve très facilement. Donc, 1, 2, 3, Soleil, le recueil de nouvelles de Robert Coulomb. Tournons-nous
le tout nouveau.
Maintenant
oui.
vers un recueil
Regard
au pluriel de Jacques Arnay.
Oui, qui, alors ce sont des nouvelles assez noires sur les problèmes de société, hein, il y a sur les guerres, sur la vieillesse, sur les maisons de retraite, et puis une dernière beaucoup plus longue qui est un peu une je ne sais pas si pour en dire une anticipation ou quoi, où la terre a disparu, il ne reste que deux personnes qui vont procréer un enfant, et puis c'est quelque chose d'assez poétique au début. Et puis après, il retrouve une citadelle qui est restée en place. Et donc, où là, il y a une société qui ressemble un peu à la nôtre. Et où les deux personnages là, vont essayer de mettre la citadelle par terre. Et ils vont y arriver. Et ça se conclut sur une phrase optimiste. C'est la seule phrase optimiste du texte. C'est... Homme se retroussa les manches, il était temps de reconstruire. Voilà.
Donc Marie-Thérèse Mutin qui vient de présenter le recueil de nouvelles Regards de Jacques Arnay aux éditions Mutine. Un roman, cette fois-ci,
un roman
intitulé Une voix sans retour, une voix VOIE.
Oui. Oui.
On pourrait y avoir un jeu de mots, pourquoi pas, voix VOIE.
C'est un jeu de mots dans la mesure où c'est le parcours d'une jeune Afghane au moment où les talibans sont entrés dans Kaboul.
Alors un petit mot sur l'auteur peut-être.
Alors l'auteur Bassir Amiri est d'origine afghane. Il est arrivé en France à l'âge de 14 ans. Donc il a vécu et il a été éduqué sous le communisme. Hein, et donc maintenant il est en France. Il est professeur à l'université à Besançon. Et il a écrit ce petit texte qui est très très fort, très très évidemment très dramatique dans la mesure où vraiment le texte des femmes, la vie des femmes afghanes était extrêmement difficile, quoi. Notamment, c'est une jeune personne qui veut lire et les talibans brûlent tous les livres, quoi. Et donc évidemment, sa destinée était une voie sans retour, puisqu'elle a été exécutée à la fin du livre.
De beaux autodafés, comme dans le Candide de Voltaire, comme du temps de l'hitlérisme aussi. Voilà. Hein. Je lis juste un petit extrait de la quatrième de couverture, du roman de Bassir Amiri, Une voix sans retour. Une voix sans retour est un roman bref et poignant, un roman en noir et blanc, le blanc de la neige qui tombe inlassablement, le noir des turbans, le noir des burkas, le noir des feuilles à demi calcinées.
Voilà, c'est ça.
Dernier ouvrage, Marie-Thérèse Mutin. Alors cette fois-ci, vous publiez Anne-Catherine Blanc, pardon.
Oui.
L'ouvrage a pour titre « D'exil et de chair ».
Oui.
Et cette jeune femme est née au Sénégal où elle vit, où elle a vécu
et a étudié jusqu'à
l'âge de 18 ans.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors « D'exil et de chair », de quoi s'agit-il ? «
D'exil et de chair », il s'agit de trois récits en réalité. Le récit d'un tirailleur sénégalais qui a été au camp de Rivesaltes au moment de la guerre 39-45 et qui ne rêve que d'une chose, c'est de retourner au Sénégal. Alors donc il vit dans le camp et dans le camp il rencontre une espagnole de la Retirada qui se trouve au camp de Rivesaltes avec son petit enfant. Et donc on voit la vie des camps à l'heure actuelle. Et puis, qui n'est guère différente de ce qu'on peut voir maintenant dans les camps de migrants, malheureusement. Et puis le troisième personnage, c'est le petit-fils du tirailleur sénégalais qui, lui, ne rêve que d'une chose. Il est au Sénégal et il veut venir en Europe, où il pense qu'il va avoir une destinée extraordinaire dans ces pays de liberté. Et donc on va suivre la traversée, les péripéties des migrants de l'époque, hein, avec les bateaux qui coulent, la police qui vous recherche. Et, voilà. Et c'est vraiment trois récits très poignants, quoi, et qui collent bien à la réalité de ce qu'est maintenant la migration, quoi.
Et je lis un extrait de la quatrième de couverture, donc du roman de Anne-Catherine Blanc qui a pour titre « D'exil et de chair ».
trois êtres humains marqués dans leur chair, symbole d'un nouvel âge de l'errance, se suivent et s'entrecroisent sur les routes d'une planète d'exil.
Voilà.
Tout est bien dit et bien résumé dans cette quatrième de couverture. Un grand merci Marie-Thérèse Mutin et bon salon du livre d'Autun.
Merci, merci Annick et à bientôt.
C'était Marie-Thérèse Mutin à notre micro lors de la 21e fête du livre d'Autun le 7 avril dernier. Bonne soirée en notre compagnie sur Radion et merci de nous accompagner. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, juste après la pause musicale que nous allons vous offrir. C'est l'historien Philippe Ménager, auteur des 500 plus belles fontaines de France aux éditions Christine Bonneton, qui évoquera pour nous quelques fontaines de Lyon. La fontaine Place Saint-Nicolas à Auxerre, la fontaine du Loup qui pleure à Mailly-le-Château et la fontaine pyramidale du parc du château d'Ancy-le-Franc dans le Tonnerrois. Mais tout de suite, petite virgule musicale. Bonne soirée, vous êtes sur Radion à bord de Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Elle m'a souri quand le jour m'a déposé contre son autre, quand elle me dit s'il te plaît laisse-toi aller, on ne vivra plus jamais l'un sans l'autre, et je me perds, je la laisse faire, et je saigne quand elle me serre contre elle. Je reviens la démasquer, elle se retient d'essayer. Côte à côte comme les autres, loin des sourires, loin de nos rêves éveillés, elle fuit la réalité comme les autres. Et je me perds, je la laisse faire, et je saigne quand elle me serre contre elle.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Suite de notre compte-rendu de la 21e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 7 et 8 avril dernier, au cours de ce bel événement littéraire et culturel, nous avons rencontré Philippe Ménager. Philippe Ménager habite à Dijon, il est maître en histoire et guide conférencier habilité par le ministère de la Culture. On lui doit plusieurs livres, articles et conférences, notamment les ouvrages intitulés « Patrimoine extraordinaire des canaux et rivières navigables de France » ainsi que « Patrimoine gallo-romain en France », aux éditions Christine Bonneton. Et j'ai demandé à Philippe Ménager comment il avait procédé pour recenser les fontaines répertoriées dans son dernier ouvrage « Les 500 plus belles fontaines de France » disponibles encore aux éditions Christine Bonneton. Philippe Ménager.
Et il y a une part de subjectivité évidente. Il y a celle qu'on a déjà vue soi-même. Bon. Et dont on a conservé le souvenir, ce qui est encore le meilleur article, j'ai envie de dire. Mais évidemment, on ne parvient pas forcément à produire une liste de 500 fontaines, bon, ou alors trop inégalement réparties. Or, après, eh bien, on croise par des sources diverses, archivistiques, par d'autres parutions, par des coucou. Ben, toi qui es dans le coin, cher ami, tu as comme ça quelques fontaines. Et puis, quand on a le privilège, eh bien, quand même, on fait éventuellement un petit tour. Et il y a une part d'aléatoire, c'est indiscutable. Mais malgré tout, on procède de manière à offrir au final quelque chose qui soit très varié, tant par l'ère chronologique évoquée, donc c'est-à-dire pour les plus anciennes, la période gallo-romaine, jusqu'aux très contemporains, et surtout on évoque aussi tous les matériaux, donc qu'il s'agisse de fontaines en bois, en pierre, en marbre, en bronze, en céramique, en objets composites, et toutes leurs finalités, qu'il s'agisse de la fontaine à breuvoir, de la fontaine lavoir, de la fontaine d'agrément dans un jardin, ou alors de la grande fontaine monumentale où l'on va faire porter un message destiné à être vu du public.
Là, par exemple, si l'on voit une fontaine avec des attributs républicains, par exemple la Marianne, on peut considérer que ce sont des fontaines qui ont été érigées pour la commémoration d'un événement politique
ou... Alors, c'est plutôt, généralement, les fontaines à la Marianne sont des fontaines qui ont été réalisées au début de la Troisième République, à un moment où les communes ont cette capacité d'aménagement et s'aperçoivent qu'il est essentiel d'apporter l'eau courante, sinon jusque dans le domicile, ça il faudra encore attendre bien des fois 60 ans, mais au moins au cœur des quartiers. Et comme on est à la fin du 19e siècle et que se font jour les querelles entre le monde religieux et le monde laïque, entre le monde politique et le monde ecclésiastique, eh bien, il n'est pas rare, en effet, que l'on trouve des symboles républicains sur certaines fontaines, histoire de rappeler, messieurs, dames, surtout mesdames à l'époque, vous qui venez remplir vos seaux d'eau pour votre foyer, rappelez-vous, c'est la commune, c'est la République qui vous a permis d'avoir cette eau.
Il y a bien sûr un classement département par département. Alors, ce qui nous intéresse ce soir dans Wagon Livre, ce sont les fontaines du département de l'Yonne. Alors, Philippe Ménager, vous avez recensé la fontaine du loup qui pleure à Mailly-le-Château. Très belle fontaine.
Oui, très belle fontaine.
Qui vous émeut.
Oh, elle m'émeut et surtout, elle a une histoire... Qui est très intéressante parce que donc nous on se trouve, alors la fontaine telle qu'elle est présentée actuellement, c'est une œuvre contemporaine, mais qui ne heurtera pas le visage de nos lecteurs, de nos promeneurs. Mais surtout, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'au sommet, on trouve un loup étalé façon trophée de chasse et qui pleure d'un œil et de l'autre se masque avec sa patte l'autre œil. Et il est dit qu'il devra pleurer toutes les larmes de son corps, allusion à l'eau qui va jaillir au pied de la fontaine, tant qu'il n'aura pas expié tous les meurtres, tous les assassinats qu'il a commis dans la région, puisqu'au XVIIIe siècle, eh bien, on sait qu'il y eut des loups qui ont eu la fâcheuse propension de venir faire des carnages dans ce coin-ci de l'Yonne. Et j'avoue que lorsque l'on voit cette sculpture, ce loup avec une larme qui n'est pas de crocodile, hein, pour faire une allusion animalière, et cette autre patte qui masque un œil, ah, il y a quelque chose. On a envie de le pardonner parce que le sculpteur a su le rendre sympathique.
Alors, autre fontaine tout à fait impressionnante, de forme pyramidale, c'est la fontaine que l'on trouve dans les jardins du château d'Ancy-le-Franc, dans le Tonnerrois.
Oui, alors Ancy, évidemment, on pense toujours aux peintures murales, mais le parc est également digne d'intérêt. Et la forme de cette fontaine, surtout, c'est qu'elle est pyramidale, non d'une pipe. Est-ce que c'est une marque de l'égyptomanie ambiante en France à compter de la toute fin du XVIIIe siècle, ou bien faut-il y voir quelques symboles franc-maçonniques ? Je vous laisse le loisir de trancher.
Avec donc la gueule d'un lion qui crache de l'eau dans une vase.
Oh ben, le lion, animal sanguinaire s'il en est, a la gueule lavée grâce aux fontaines, parce que c'est un des grands classiques du bestiaire fontainier.
Dans le département de l'Yonne, tout le monde connaît la fontaine Place Saint-Nicolas, qui était d'ailleurs le quartier des mariniers d'Auxerre, au bord de l'Yonne. Cette fontaine monumentale qui est très agréable.
Oui, elle est très agréable, mais surtout elle a une histoire qui est très drôle. C'est que vu qu'elle est d'une structure ancienne, que le quartier alentour est pluriséculaire, on se dit, ah oui, évidemment, elle a été là de tout temps. Que nenni ! Elle se trouvait beaucoup plus haut dans Auxerre et il faut s'imaginer qu'on l'a démontée bloc par bloc et qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas encore de camions et donc ce sont des tombereaux tirés par des bœufs qui l'ont déplacée dans Auxerre jusqu'ici. Et il faut s'imaginer le convoi parce que ça a été une galère sans nom. Mais la vertu, c'est que lorsqu'on la voit aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a toujours été là. L'effort de son déménagement n'apparaît pas. Il méritait cependant d'être raconté dans ce livre.
Alors, autre sculpture là, de Michel Rötzer, c'est la fontaine que l'on trouve à Bussy-en-Othe, place de la Fontaine. Un petit mot sur cette œuvre contemporaine ?
C'est un sculpteur qui est assez connu, me semble-t-il, dans le pays éconnais et qui offre ici la possibilité de découvrir la faune des forêts du pays d'Othe. Et il remet au goût du jour, eh bien, justement, l'art animalier dans la statuaire contemporaine. Et c'est très plaisant visuellement et on se plairait presque à imaginer que certains soirs au clair de lune, eh bien, pourquoi n'aurait-on pas des animaux de chair et d'os qui viendraient s'y rafraîchir ?
Alors, autre fontaine, c'est à Coulanges-sur-Yonne, qui célèbre le travail des flotteurs. C'est la fontaine des flotteurs. Alors, œuvre du céramiste Jean-Michel Doigt, du sculpteur Yves Varanguin. Et c'est donc place de l'Hôtel de Ville à Coulanges-sur-Yonne.
Oui, alors ça, c'est une autre œuvre contemporaine. Et c'est ce qui permet de montrer véritablement que les fontaines, bon, ont différentes vertus. Cette fontaine-là n'est évidemment pas destinée à l'abreuvement. C'est une œuvre qui est destinée à embellir une place et à commémorer une activité par ailleurs disparue. Et l'une de ses vertus, c'est qu'elle présente un décor en céramique, qui est vraisemblablement l'un des matériaux les moins couramment utilisés pour l'art fontainier. Et comme on est dans l'Yonne, comme on est dans un pays pas si loin que ça, la Puisaye, où on en sait maîtriser toutes les finesses de l'art potier, eh bien ici on a une très jolie création où l'on croise des poules d'eau et où eh bien l'écoulement de l'eau rappelle celui de l'Yonne et le flottage autrefois si important des bûches destinées à chauffer les Parisiens.
Les 500 plus belles fontaines de France aux éditions Christine Bonneton sous la plume de l'historien Philippe Ménager que vous venez d'entendre à notre micro. Un reportage enregistré le 8 avril dernier lors de la 21e fête du livre d'Autun. Dernière virgule musicale, puis viendra le moment de vous présenter le programme de notre rendez-vous de mercredi prochain, toujours sur Radion, c'est Wagon Livre. Et je vous retrouve juste après la pause musicale que nous vous offrons.
Let winter break. Let it burn till I see you again. I will be here with you, just like I told you I would. I'd love to always love you, but I'm scared of loneliness when I'm alone with you. I know it's hard, only you and I.
is it over for me? Because I know it's over you. And I guess it is hell, and you my darling, I'll be rooting for you. Then my darling, I'll be rooting for you. And where did she go? Truth left us long ago, and I need her. I should let it go, but all that is left is my perspective, broken and so left behind again. I know it's hard, only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. And I guess it is hell, and I'll be rooting for you. Then my darling, I'll be rooting for you.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Avant de vous présenter le prochain rendez-vous de Wagon Livre la semaine prochaine, je voudrais d'abord remercier tous les auteurs et les éditeurs rencontrés lors de la 21e fête du livre d'Autun de nous avoir consacré du temps. Merci également aux bénévoles de l'association Lire en pays autunois, association organisatrice de cette belle manifestation culturelle et littéraire qui compte en Bourgogne. Rendez-vous en tout cas l'an prochain pour une nouvelle édition toujours aussi conviviale et riche en rencontres variées et passionnantes. Au programme de Wagon Livre, mercredi prochain 16 mai, toujours à 21h sur Radion, nous recevrons Liliane Mosca pour son dernier roman « La vie rêvée de Gabriel » disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité. La vie de Gabriel, c'est la vie de Gabriel Renard. C'est un roman vrai, un roman en couleur qui commence en 1894 lorsque, toute jeune, cette fille quitte sa Champagne natale pour devenir bonne à Paris chez les Renoir. Renoir, le célèbre peintre. En tout cas, La vie rêvée de Gabriel, c'est au programme de Wagon Livre la semaine prochaine avec Liliane Mosca, journaliste culturelle qui a publié un grand nombre de romans, notamment
aux éditions des Presses de la Cité. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très belle soirée sur Radion et rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Et je vous rappelle que les émissions sont annoncées sur le site yannickpetit.fr et vous allez pouvoir retrouver d'ici quelques heures cette émission à l'écoute sur notre site d'archives via internet en pianotant yannickpetit.fr. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.